Vous êtes sur RFL 101. Tout de suite, RFL reportage.
Bonjour à tous, je suis dans le cadre des Amis des Abeilles au château de Cangé, dans le cadre donc de la ruche en fête. Et là, je suis en présence d'une association. Je vais laisser d'ailleurs carrément la présidente nous parler de cette association. Je vous présente Madame Friot-Marise, bonjour.
Bonjour.
Ainsi qu'un ancien horticulteur, Chauveau Daniel. Bonjour Daniel. Voulez-vous, Marise, je m'adresse d'abord à vous puisque vous êtes la présidente. Qu'est-ce qui se cache derrière SHOT, S-H-O-T ?
Bien, c'est la Société d'horticulture de Touraine, une association assez ancienne puisque nous avons fêté nos 150 ans au mois d'avril. Elle est réapparue en juin 1989, donc on a fêté en juin ses 30 ans parce qu'elle a été mise en sommeil pendant un certain nombre d'années. Nous sommes au Jardin botanique de la ville de Tours, au centre, donc dans les anciens bâtiments du service Espace Vert, au premier étage, et vous pouvez venir nous voir quand vous voulez.
Vous regroupez 300, je vois sur la plaquette, 350 adhérents. Donc il y a pas mal de personnes qui vous suivent. Pour X raisons, vous allez nous développer justement ces raisons ?
Oui, alors on dira même presque 400 maintenant. Alors, ce sont des gens qui sont passionnés par les végétaux, par le jardin, jardin d'ornement, jardin potager. Nous avons des professionnels, nous avons des amateurs et nous avons aussi de plus en plus de jeunes qui se passionnent un petit peu du jardin ou qui voudraient commencer à faire un jardin potager.
C'est obligatoire de s'intéresser à un potager.
Le potager, c'est une des raisons, mais en fait, c'est tous les gens qui sont passionnés pour une plante, pour un arbre, un végétal quelconque.
Un curieux. Alors, je vois que vous êtes présent, vous avez le soutien de la ville de Tours, bien évidemment, puisque vous êtes en train de me dire que vous êtes installé au premier étage dans ce bâtiment, au jardin botanique, ainsi que le conseil départemental de nombreuses municipalités afin d'organiser des concours de fleurissement. Ah oui, comment ça se passe, racontez.
Eh bien, depuis 2006, on a la mission Fleurir la France, donc une délégation du conseil départemental, et on organise le concours des villes et villages fleuris, c'est-à-dire en avril. On envoie les inscriptions, les communes nous renvoient leurs documents et ensuite on organise la visite de chacune des communes pour leur attribuer éventuellement un pétale, deux pétales, trois pétales.
Quels critères vous basez ?
Il faut faire très attention parce que nous avons une grille nationale qui est composée de 5 critères. Donc c'est une première démarche vis-à-vis de la politique de la commune, vis-à-vis de l'embellissement. Ensuite, c'est tout ce qui est animation par rapport aux habitants, les écoles, etc. Le patrimoine végétal, les arbres, les arbustes, le fleurissement, tout ce qui est en relation avec les pelouses, les plantes vivaces, etc. Le quatrième critère, c'est tout ce qui est en relation avec l'environnement. La biodiversité, le zéro phyto, bien sûr, le respect de l'eau, enfin tout ce qui est en relation avec la nature et maintenir cette nature, bien la connaître et surtout la préserver. Et le cinquième critère est tout ce qui est en relation avec les espaces, c'est-à-dire la gestion des cimetières, la gestion des terrains de foot.
Je suppose que vous êtes très content. On a abandonné tout ce qui est les produits phytosanitaires dans les communes.
Bien sûr, on a abandonné ces produits phytosanitaires, il fallait les abandonner. Le problème, c'est maintenant comment gérer nos espaces. Et ça devient très compliqué. C'est-à-dire, on peut très bien dire on fait du zéro phyto, mais il ne faut pas faire du zéro binette. Et actuellement, on a un gros problème tout de même de plantes invasives, d'enherbement à des endroits où ça va devenir dangereux. C'est compliqué.
Par contre, alors moi qui suis bien évidemment, qui roule, que ce soit vélo, je vois à travers les pelouses des roses trémières par-ci, par-là, qui sont protégées, qui arrivent maintenant et la tondeuse passe à côté. Des goras aussi, je vois qu'ils se développent. Moi, je trouve ça ravissant. Alors peut-être que pour vous, ça pose peut-être un problème. C'est des plantes peut-être envahissantes, mais je trouve que c'est un fleurissement sauvage, sans doute, ce que vous appelez, mais néanmoins qui est très agréable à l'œil.
On ne parlera pas de fleurissement sauvage. On parlera de fleurissement complètement naturelle. C'est-à-dire, ce sont des végétaux qui, par les graines, se sont installés aux endroits où on n'aurait jamais pensé les mettre. Après, il faut les gérer. C'est-à-dire, les goras, les graines sont abondantes et il ne va pas y en avoir une qui va se perdre. Donc, à un moment, il va falloir quand même la main du jardinier ou la main de quelqu'un pour pouvoir un peu trier, diminuer le nombre pour qu'il n'y ait pas surpopulation et qu'il n'y ait pas envahissement.
Organiser des cours de jardinage sur le site de la Gloriette, oui, qui est un jardin pédagogique.
À la Gloriette, nous avons deux espaces. Un qui est réservé pour le jardin pédagogique que l'on appelle le jardin des idées. Ce sont 9 carrés avec un certain nombre de plantes nouvelles ou de techniques nouvelles, de façon à permettre aux gens de savoir un peu ce que l'on peut faire et l'évolution de tout ça. Depuis 10 ans, nous avons un carré qui est un carré test de paillage, et ce qui fait que l'on voit l'évolution des paillages en coque de noix, si éventuellement c'est intéressant ou pas intéressant.
Ah oui, ce sont des tests finalement, pour après, éventuellement, si ça fonctionne, propager ça, peut-être sur une étendue un peu plus large, ben un peu plus grande.
Tout à fait.
Les graines, vous les avez où ? Ce sont vos propres récoltes, parce que là, je vois justement des graines qui sont mises dans ces petits carrés au niveau de la Gloriette.
Alors, les graines, on a quelques graines qui viennent de nos jardiniers. Sachant que pour certaines plantes, ce sont des hybrides, ce n'est pas possible de pouvoir réutiliser des graines, sinon on aura toutes les sortes de bâtards. Et donc...
Alors ensuite, vous animez, vous faites des fêtes comme là, puisque, je répète, nous sommes dans ce joli cadre du château de Cangé à Saint-Avertin, et vous faites donc des animations, bien évidemment, qui a le but d'information pour celui qui veut s'intéresser à quelle qu'elle soit la plante ou un potager.
Tout à fait. Et ici, nous avons surtout travaillé sur tout ce qui était plantes mellifères, puisque nous sommes dans le monde de l'apiculture, mais également tous les arbustes ou tous les arbres qui peuvent être intéressants aussi pour nos abeilles ou pour nos insectes.
Est-ce que vous intervenez alors du coup directement au niveau des municipalités, justement pour les orienter vers plus d'arbres mellifères ?
Auprès des municipalités, nous avons, par la mission Fleurir la France, nous avons donc à organiser des réunions techniques, mais nous avons également des expertises et des visites conseils dans les différentes communes, où là, justement, par le biais de nouveaux aménagements ou de restauration de jardins, eh bien, on leur donne une liste de végétaux qui correspondent au sol et au climat, ainsi qu'au territoire, parce qu'il ne faut pas enlever le territoire de Touraine, et il faut rester avec nos espèces de Touraine. Et là, en même temps, on va sélectionner les plantes qui vont être mellifères.
Je me retourne cette fois-ci vers Daniel, qui, je le disais au début de l'émission, est un ancien horticulteur. Qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Ça paraît logique, hein. Finalement, je vous pose cette question, mais ça paraît bien évidemment logique. Vous êtes là certainement pour donner vos conseils.
Je donne quelques conseils de jardin. Quand on est au jardin des idées, par exemple, au jardin associatif, hein, on a beaucoup de gens qui viennent. On fait participer les enfants au semis de printemps, on fait diverses activités.
Quel est le regard des enfants sur, parce qu'on sait que nous sommes dans une évolution très technique, technologique maintenant, et vous me parlez d'enfants au niveau des potagers. Quel est le regard ? Que font-ils ? Les questions qu'ils vous posent, par exemple ?
Ah ben, ils aiment bien poser tout plein de questions, bien sûr, ils sont très intéressés, donc au niveau des graines, des semis, des époques de récolte, de...
Comment ça pousse.
Donc c'est l'avantage au jardin, justement, c'est qu'ils peuvent venir voir au fil de l'année comment les petites graines qu'ils ont mises...
Oui, justement, ils voient l'évolution de leur travail initial.
Voilà, tout à fait, oui.
Que faites-vous alors de particulièrement autre dans cette association ?
Bah, je participe beaucoup aux sorties, aux expositions comme telles que...
D'où votre présence, voilà.
On est quand même assez sollicité au fil de l'année. La semaine prochaine, on est à Saint-Cyr... Parc des Expos, je crois, au jardin de Salon de l'Habitat. Et puis je suis trésorier adjoint de l'association aussi.
Est-ce que vous continuez à faire votre potager ?
Ah oui, bien sûr, de plus en plus. Maintenant j'ai plus de temps, j'en fais beaucoup plus que...
1300 jardins.
Dans la ville de Tours, c'est-à-dire la Gloriette, ce qu'il y a aussi derrière la bergeronnerie, oui.
Alors ces jardins familiaux sont très importants puisqu'il y en a 1300. Les derniers, ce sont les jardins familiaux qui se trouvent rue du chemin de fer, où il y a 27 nouveaux jardins, alors que théoriquement, on aurait pu mettre justement du béton. Et ça, félicitations à la ville de Tours d'avoir gardé ces parcelles en tant que parcelles de jardin. Et nous, justement, on fait partie du jury des jardins familiaux. Souvent, si vous voulez, c'est un travail pédagogique qui est à l'initiative d'un enseignant ou d'une enseignante. Le problème, c'est qu'elle peut partir, et ce qui fait que le successeur n'en a pas forcément les moyens ou l'intention ou l'envie, et ce qui fait qu'il reste un petit peu à l'abandon. Et je pense qu'on les prend un petit peu à l'envers, ces jardins. Il faudrait commencer les jardins au mois de septembre et les maintenir avec les enfants jusqu'au mois de juin. Parce que souvent, on commence à les faire au mois d'avril, quand il fait beau, et puis les enfants vont partir au mois de juin et ça tombe à l'abandon.
Maryse, je vous remercie pour vos commentaires.
Ce qui est absolument important, c'est qu'il faut que vous ayez un petit jardin, que vous ayez un balcon, que vous ayez simplement une terrasse ou un grand jardin. Eh bien, il faut mettre du végétal de plus en plus, parce que c'est le végétal qui va nous faire vivre, qui va nous apporter l'oxygène, qui va épurer le milieu, qui va maintenir l'humidité. Il faut absolument planter et arrêtons de mettre des cailloux partout.
Pour terminer, Maryse, il me semble bien qu'il y a une prise de conscience sur le sujet. On voit bien avec les extrêmes chaleurs que nous avons depuis quelques années et on se rend compte que finalement, il faut planter beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de végétaux, même au sein des grandes villes. C'est une note optimiste pour l'avenir par rapport au monde végétal. Maryse, je vous remercie. Je vous remercie, Daniel, d'avoir obtempéré pour cette émission. Je vous dis au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
RFL Reportage, c'est fini pour aujourd'hui.